France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Des députés, on en a entendu, ici ou ailleurs, mais plutôt dans les journaux d'information. Alors le député qui vient, celui dont Anaïs Quien a fait le portrait pour un documentaire proposé dans la Fabrique de l'Histoire, le 20 mars 2012, dans une réalisation de Véronique Samouliov, ce député était plutôt original, et surtout pour son époque. Les journaux de l'époque en question en parlaient, bien sûr, mais depuis, cet élu du peuple est retombé dans l'oubli. Heureusement, France Culture sait, entre autres qualités, se pencher sur le passé et le faire revivre.
Quand on sortait de l'école, le midi, à 11h30 midi, on le croisait dans la rue et il adorait la Mecque. Il faisait sa prière. Bon, ben, on sortait de l'école, on passait puis on ne s'en occupait pas autrement. Hein. Donc, ben voilà un document du docteur Grenier quand il était député. Il a été député à Pontarlier.
La fée verte et le burnou, Philippe Grenier de Blida à Pontarlier.
Il allait à la chambre des députés en tenue. Et puis après, quand il nous recevait dans son cabinet, il n'était pas en tenue. Et c'était le docteur des pauvres. C'était quelqu'un.
Janvier 1897. C'est la rentrée parlementaire. Un certain Philippe Grenier fait son entrée à l'Assemblée nationale. À son passage, les autres élus en redingote s'étonnent, s'offusquent, il rit surtout. Vêtu d'un long manteau blanc, il porte le turban et prie sur les bords de Seine 5 fois par jour devant les Parisiens ébahis. Il provoque la curiosité de tous. Ce n'est pas jour de carnaval. Philippe Grenier est le premier député français métropolitain musulman. Converti en Algérie, il met son mandat au service de la respectabilisation et de l'intégration des musulmans de l'Empire colonial. Contrairement à la coutume, qui veut qu'un jeune élu se taise et observe respectueusement ses aînés depuis son banc, il parle beaucoup, beaucoup trop pour certains, dès son arrivée au Palais Bourbon. À l'époque, on se déchire autour de l'affaire qui met en cause le patriotisme du juif Dreyfus, et la jeune République française débat avec ardeur de la séparation de l'Église et de l'État. Les laïcards affrontent naturellement l'Église catholique. L'arrivée d'un musulman à la Chambre sème le trouble et la perplexité.
L'élection de Philippe Grenier soit le résultat d'un très joli coup de billard électoral, soit un miracle. Et évidemment, lui penchera pour la deuxième explication. Il est certain qu'il n'aurait jamais dû être élu député.
D'abord, il n'est pas connu, il ne fait pas de campagne politique, on va dire, au sens
Joël Guiraud.
Normal du terme. Et il est élu en se glissant entre deux candidats, si vous voulez, qui étaient du même bord, mais qui finalement s'opposaient.
Il n'a pas de soutien de la presse, alors que la presse est fondamentale à cette époque-là. La presse est une presse d'opinion. D'autre part, il est très accaparé par ses malades. Il ne mène quasiment pas campagne. Le jour où il devait aller à Jougne faire donc sa réunion, eh bien, il est obligé d'amputer un pauvre bougre du village. Il ne participe pas à cette réunion. Tous ses bulletins n'arriveront pas dans les villages. Il ne fait pas d'affiches. Donc, ça n'apparaît pas comme un candidat sérieux de prime abord.
Il se présente, il est élu. Et c'est ça qui est paradoxal. Parce que on est dans le Haut-Doubs, pays très catholique s'il en est, à l'époque. Et donc, lui est musulman. Donc vous imaginez déjà un député musulman élu dans un pays à très forte connotation catholique.
Il se présente à une élection tout à fait particulière, puisque en fait c'est une élection qui a lieu en cours de législature. Simplement, le député Dionis Ordinaire est décédé en cours de mandat et il faut le remplacer. Il y a 3 candidats à cette élection. Le fils du défunt, Maurice Ordinaire, qui entend bien prendre la succession de papa. Il y a un autre candidat, à peu près sur la même nuance politique, toujours ce radicalisme au contour un peu flou, un certain Grillon, ancien président du Conseil général. Et donc on a un duel de notables. Philippe Grenier se présente, et au départ il n'est vraiment pas pris au sérieux, en particulier par le préfet. Pour lui c'est un fantaisiste, et il se trompe.
Alors qu'est-ce qui a fait qu'il a été élu, ce personnage? Ben, c'est parce que, si vous voulez, il a réussi à se glisser au milieu d'une opportunité, et puis parce qu'il était quand même connu comme un médecin, un bon médecin sans doute, généreux, ensuite très généreux vis-à-vis de sa clientèle, et qu'il avait appliqué à Pontarlier un certain nombre de des prérogatives, des commandes, on va dire, que lui dictait sa foi, c'est-à-dire à travers le corps.
C'était un excellent médecin. Il avait un diagnostic très sûr. C'était un fervent de l'hydrothérapie, un spécialiste des voies respiratoires.
Il aimait les gens, il aimait les enfants, il aimait les animaux.
Il ne faisait jamais payer les pauvres et leur donnait l'argent nécessaire pour payer le pharmacien. À l'occasion, il fournissait les pansements. C'est ainsi que, lors de son séjour à Cuse, il découpa plusieurs de nos grandes nappes et serviettes pour panser des bohémiens et des mendiants de passage.
Je sais qu'il avait un petit cheval qu'il mettait au fond de la rue de Besançon, un petit cheval arabe sur lequel on s'amusait.
Madame Grenier avait invité des amis, ils étaient nombreux autour d'une table, et voilà qu'au moment du... ils avaient déjà mangé l'entrée, évidemment, les... et au moment de la viande, de servir le plat de viande, la bonne arrive, elle ouvre la porte, puis elle fait comme ça, elle étend les bras au l'air d'air désespéré. Il avait pris le rôti dans le four, puis il l'avait donné à un de ses malades qui était venu en consultation.
Ce qui fait que, au soir du premier tour, il fait tout de même 17%. C'est pas du tout déshonorant comme score pour un jeune homme d'une trentaine d'années qui se présente pour la première fois aux législatives. 17%, c'est correct.
Chers concitoyens, avant de quitter Pontarlier, je tiens à vous remercier sincèrement du ferme appui que vous m'avez donné au scrutin de ballotage.
Philippe Grenier, fraîchement élu, à ses électeurs.
Après 7 ans de pratique médicale au milieu de vous, je vais entrer dans une nouvelle vie et commencer ma carrière politique. La tâche que je me suis assignée est lourde. Je l'entreprends avec confiance, soutenu par l'estime et l'appui d'un grand nombre d'entre vous. Je porterai, s'il plaît à Dieu, devant la tribune nationale, vos justes revendications et ne servirai jamais d'autre drapeau que celui de la justice et de l'humanité. Louange à Dieu seul. Vive la France, vive l'arrondissement de Pontarlier, vive la République. Docteur Philippe Grenier, député.
Maurice Ordinaire voit que le siège de papa risque de lui échapper.
Bruno Fulini.
Parce que son concurrent Grillon a une petite avance. Et alors il a cette idée diabolique, c'est de se retirer et de faire voter pour le musulman. Tout simplement parce qu'il n'y a que 15 mois à attendre avant les élections générales et finalement ce musulman n'a aucune chance d'être réélu. Il va tenir la place au chaud et ça évitera que l'affreux Grillon soit élu à sa place.
Commentaire de la dépêche de Besançon. Pendant la campagne.
Cette candidature ne serait-elle pas patronnée par des roublards en quête d'une réclame qui attirerait des touristes à Pontarlier et hâterait l'installation du tramway à Mout? Quelle aubaine, en effet, si l'on se disait sur le boulevard. Vrai, ce monsieur arabe est député?
Quand je te le dis. Mais député de l'Algérie ou du Soudan?
Pas du tout. De Pontarlier, d'où, ville source de l'absinthe, à 850 mètres d'altitude avec 300 jours d'hiver. Et la curiosité entraînerait vers Pontarlier des hordes de voyageurs.
Donc à la surprise générale, eh bien Philippe Grenier est élu. C'est le résultat d'un carambolage électoral tout à fait étonnant et amusant. Mais comment ne pas y voir le doigt de la Providence? Et on prête à Philippe Grenier cette phrase, impossible à vérifier s'il l'a vraiment prononcée, mais la phrase est belle. « Allah veut que j'enseigne sa religion à la Chambre ».
Au lendemain de l'élection de Philippe Grenier, Charles Chinchotte, dans les colonnes du Figaro.
Que se passera-t-il à Paris quand sonnera la 5e heure du soir? S'il fait chez nous ce qu'on l'a vu faire à Pontarlier? S'il descend tout nu dans la Seine, comme il descend même l'hiver dans le Doubs pour ses ablutions? Enfin, le Parlement a vu un sénateur en vêtements bretons, un député en blouse, il lui manquait un musulman de Pontarlier. Il l'a.
À partir du moment où le suffrage universel était institué en 1848, on voit des candidats de toutes sortes, y compris des candidats franchement bizarroïdes. Des poètes chevelus, des mystiques de toutes sortes, des inventeurs qui cherchent à faire connaître une générale invention. Bon, mais ils sont totalement sincères. Et c'est à la fin des années 1880, au début des années 1890, qu'on voit apparaître les premières candidatures pour rire. Des candidatures qui visent vraiment à tourner en dérision la classe politique, voire le suffrage universel. Et ça commence à Montmartre. C'est Rodolphe Salis, le patron du Chat Noir, qui va se présenter pour la séparation de Montmartre et de l'État. On verra en 1898 des anarchistes qui vont présenter un âne, un petit âne qui s'appelle Nul et qui est blanc, ce qui permet de voter nul et de voter blanc, bien sûr, et plus tard, en 1906, on présentera un cochon. Bon, mais on en est vraiment au tout début. Philippe Grenier, lui, n'a rien à voir avec ce genre de candidature-là. Lui, il appartient plutôt à la vieille école des candidats bizarres, c'est-à-dire ceux qui sont totalement sincères.
Le Soleil, 30 décembre 1896.
Le député musulman de Pontarlier est arrivé mardi matin à Paris. Monsieur le docteur Grenier a fait son entrée dans la capitale, vêtu d'un burnous blanc, coiffé d'un turban à cordes de chameau et chaussé de bottes à l'écuyère. C'est un homme de petite taille, aux mouvements sensiblement nerveux. Il n'a que 30 ans, on lui en donnerait 40. Il a le type oriental très prononcé. On dirait un kabyle des plus authentiques. Le front est bombé, le visage ovale se termine par une barbiche claire et très noire, la peau est brune et l'œil noir et luisant, garde de longs instants l'immobilité contemplative des fils de l'Orient.
Quand, en 1896, Philippe Grenier arrive à la Chambre des députés,
Joël Guiraud,
c'est en général la risée. Qu'est-ce que c'est que ce député fantaisiste charlatan qui nous arrive? Il va arriver avec sa gandoura, il va arriver pour faire ses ablutions, ses prières. Enfin, tout le monde se moque. Une grande partie des gens, et des journalistes entre autres, se moquent. Les caricaturistes s'en donnent absolument à cœur joie.
Alors, montrez-les-nous, justement.
Alors, on va vous montrer, je vais vous en montrer deux qui sont là, qui sont assez typiques et sympathiques.
C'est la couverture célèbre du supplément illustré du Petit Journal, et donc qui représente Philippe Grenier arrivant dans une posture très humble au Palais Bourbon. Effectivement, il est vêtu de son grand manteau blanc à capuche, avec cette main posée sur son torse en signe de salut. C'est le salut de la paix.
Et il disait que quand il arrivait au Palais Bourbon, la première des choses qu'il faisait, c'était de prier pour que d'une part Dieu l'inspire et que en même temps Dieu inspire à ses collègues suffisamment de sens de l'écoute, etc. Mais ça, c'est la première. Mais après, il y en a eu d'autres qui étaient infiniment plus irrespectueuses. Il est représenté tout nu dans une baignoire au milieu de l'Assemblée, en train de faire ses ablutions. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça qui sont relativement, on va dire, rosses. Alors, on peut aller voir les gravures.
Allons-y.
Suivez. Comme on dit dans les musées, suivez le guide. C'est traditionnel. Alors, on monte là.
Messieurs, la séance est ouverte.
Ah, voilà le jeune phénomène.
Sénat est bien loti avec un abruti pareil.
Donc on a...
Donc vous avez préparé des documents.
Voilà. Donc, ça c'était le tout petit parisien, ça c'est le grelot, le député musulman.
Encore en couverture.
Encore en couverture, mais là c'est assez caricatural. Hein. Je dirais que c'est un peu le musulman sur son tapis. On ne sait pas si c'est un tapis de prière ou un tapis volant. Là, il a un parapluie pour s'abriter du soleil. Il a un chapeau, qui est un très chapeau mexicain. Avec la légende, pas plus cabotin que vous, chers compatriotes, ne portez-vous pas chacun le déguisement de votre emploi. C'est assez intéressant parce qu'on voit un prêtre, on voit un bourgeois, un musicien. Alors le cortège de l'ami Carême, ah oui, ça c'est assez extraordinaire, l'ami Carême.
Et oui, en un semestre, Philippe Grenier fait pour la deuxième fois la une du supplément illustré du Petit Journal, puisqu'on représente en fait le char qui lui a été consacré dans le cortège de la mi-carême. Donc ça se passe à Paris, hein, à Paris où il y a à l'époque ce type de procession très festive, très un peu folle, un peu carnavalesque. Et un char entier a été dédié aux députés musulmans, donc on a un comédien habillé d'un costume de député surmonté d'un burnous, et puis il est entouré d'une nuée de houris, en l'occurrence le genre de jeune femme qui pouvait poser pour l'école des Beaux-Arts, et qu'on a attifé en bayadère orientale. Bon, tout ça est vraiment carnavalesque, hein, c'est vraiment un Orient de pacotille, mais un char entier, c'est la gloire. Et de façon générale, dans toute la presse de l'époque, c'est une célébrité nationale. Sachant qu'on vit dans une époque où on rêve de l'Orient, mais d'un Orient qu'on ne connaît pas du tout, et qui mélange aux rêveries romantiques, des souvenirs de Molière, enfin, tout ça est un salmigondi incroyable. Bon, le premier problème, après l'élection de Philippe Grenier, c'est de savoir s'il est polygame ou non. Alors qu'en fait, Philippe Grenier est un intellectuel du genre particulièrement timide, qui n'est vraiment pas connu pour ses débordements érotiques, pas du tout. Il serait plutôt comparable à un curé de ce point de vue-là. C'est un personnage, peut-être même un peu ennuyeux, en fait, hein, très, très moralisateur, à une époque où, à la Chambre, on a des poètes, on a des écrivains, on a beaucoup de célibataires qui mènent une vie d'éternel étudiant, en fait, entre le Palais Bourbon et leur circonscription. Bon, Grenier tranche complètement avec ce style d'homme, de la même façon que sa foi musulmane le sépare de ceux qui sont les notables locaux bien établis. Donc Philippe Grenier, c'est le contraire du prince du désert qui arriverait... voilà. Mais Grenier est malin aussi, c'est-à-dire qu'il laisse faire. Il doit être atterré par certains articles, par certaines caricatures, mais il ne dément pas, il proteste peu. Et au fond, ce qui lui l'intéresse, c'est d'être connu, hein, c'est qu'on parle de lui et c'est qu'on lui donne la parole. Et tant pis si, aux entournures, eh bien, on se moque un peu de lui ou on tord un peu la vérité.
Oui, mon vieux, c'est un musulman qui vient de répliquer à la chambre. On l'a nommé dans le mois de décembre pour nous l'envoyer le jour de l'an. Il paraît que c'est un fanatique, un marabout du Sahara. Pourvu qu'il n'y ait pas le choléra, manquerait plus que ça dans la boutique. Il s'appelle docteur, il s'appelle le docteur Grenier. Vrai, c'est pas pour jeter de la bêche, mais faut tout de même qu'il soit en dèche, les électeurs de Pontarlier.
Les rapports avec l'Algérie sont très très forts. D'abord parce que dès sa naissance, il va partir en Algérie, puisque son père sert en Algérie. Et il va apprendre l'arabe. Il va aller au contact tout enfant, également de la population indigène. Il va tomber malade en Algérie et il va être bien sûr très bien soigné par ses parents, mais aussi par l'environnement, par le personnel musulman, arabe, et il va être très très touché par cette relation, ce lien avec le monde musulman, le monde indigène, comme on disait à l'époque.
Et par la suite, il retourne en Algérie ?
Il va retourner en Algérie lorsqu'il aura terminé ses études de médecin et envoyé par sa mère, car son frère Ernest servait dans les Turcos. C'était les troupes indigènes, ni plus ni moins, ce qu'on va appeler aussi les spahis. Et il ne correspondait très très peu avec sa mère, et sa mère a été inquiète, craignant qu'il ait trouvé en Algérie donc une belle indigène. Et c'est sa mère qui l'a envoyé pour surveiller en quelque sorte le frère cadet, et c'est là qu'il s'est épris à la fois de ce peuple et de sa religion. Suite à ces deux voyages, il en parlait à sa mère. Il savait qu'il allait lui faire un crève-cœur énorme. Effectivement, sa mère est très pieuse, mystique même, on peut dire. C'est important parce qu'il va être orphelin, puisque son père décède suite à la guerre de 1870. Et à 5-6 ans, le jeune Philippe Grenier se retrouve donc avec sa maman et seule, elle va élever ses trois enfants. Et donc, il va bénéficier d'une éducation religieuse très stricte. Donc le rôle de la mère est fondamental dans un premier temps, dans son éducation et dans son approche religieuse. Donc il était très attaché, mais en même temps il n'a pas franchi le pas dans un premier temps. Et ensuite quand il est retourné en Algérie, c'est là que la décision s'est faite. Et c'est suite à cette prise de décision qu'il est parti donc à la Mecque. Et quand il est revenu avec donc l'habit musulman, avec le burnous, avec la gandoura, à Pontarlier.
T'avoueras que c'est pas ordinaire de choisir un prophète de Dieu pour représenter un chef-lieu et remplacer des ordinaires. un monsieur qui voudrait chez nous implanter les mœurs africaines, qui se lave les pieds dans nos fontaines et qui couche avec un burnou. Un client du perruquier d'âge qui viendra les jours de gala gueuler. Un client du perruquier d'âge qui viendra les jours de gala gueuler sur nos boulevards. Allah, Bono, Bezef, Anon Macache. Aussi vois-tu mon vieux Justin, si c'est qu'ils ont fait ça pour rire, ils ont eu tort, il faut leur dire. On ne blague pas avec le scrutin, car si grâce au maraboutisme on nomme encore un arbicou, ce sera plus kiff kiff bourrico, ça deviendra du maboulisme.
Alors les laïcars de l'époque ont quand même pour adversaire principal l'Église catholique. Et l'élection de Grenier ne les effraie pas tant que ça. Il faut dire que Grenier, tout musulman qu'il est, se présente sous les couleurs du radicalisme et même d'une tendance assez gauchisante du radicalisme. Et si on lit sa profession de foi, il explique eh bien, que le devoir des Français de 1896, c'est de continuer l'œuvre eh bien, de leurs ancêtres, de la glorieuse révolution. Et lui propose de revenir au fondement, non pas de l'islam, mais de la République. Et donc il tente une espèce de synthèse tout à fait étonnante entre un certain nombre de principes qu'il a puisés dans le Coran, la charité en particulier, un certain nombre de pratiques qu'il a rencontrées dans le monde arabe. Il veut équiper toutes les communes de bains publics qui ressemblent étrangement à des hammams. Et puis, en même temps, il parle au cœur des Français de la Troisième République, puisqu'il évoque la liberté, l'égalité, la fraternité et toutes les valeurs qui sont majoritairement celles des Français sous la Troisième.
Philippe Grenier, pourquoi vous dites-vous prophète de Dieu ?
S'il existe des prophètes, et j'entends par ces mots des réformateurs de l'humanité, suscités par la volonté de Dieu, parmi les peuples de l'Afrique, pourquoi n'en aurions-nous pas parmi les peuples européens ? Je fais ma prière lorsque j'entre à la Chambre des députés. Mais est-il extraordinaire qu'avant d'accomplir des actes qui peuvent peser sur les destinées de mon pays et avoir les conséquences les plus graves, je demande à Dieu de me diriger et de m'éclairer dans ma conduite ?
Il joue très habilement, il ne dissimule pas sa foi, il la met en avant, mais il l'intègre dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Et lorsqu'il est élu, eh bien, les commentaires sont très étonnants. Il y a beaucoup de calomnies, certains pensent que c'est un fou échappé de l'asile, bon, il aura vite fait de démontrer que c'est tout à fait faux. Et puis surtout, on va s'intéresser à lui politiquement, à ce qu'il représente. Aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, on va s'interroger sur ce personnage. À l'extrême gauche, ce sont les socialistes, Jaurès en tête. Il faut savoir qu'un mois auparavant, les socialistes, alors que la Chambre allait examiner les crédits de l'Algérie, hein, des départements français d'Algérie, les socialistes avaient demandé qu'une délégation élue d'indigènes puisse venir assister au débat, ce qui était une façon de créer un embryon de citoyenneté pour les Arabes d'Algérie. Évidemment, ça avait été refusé, mais Jaurès s'amuse beaucoup de voir que, d'un certain point de vue, le groupe socialiste à la Chambre a été entendu par Allah, qui, du coup, envoie un musulman. Et puis, plus au fond, eh bien Jaurès se demande s'il n'y a pas un pont à construire entre socialisme et islam. C'est tout à fait étonnant. Et puis à l'extrême droite, nous avons les nationalistes. On pourrait penser que les nationalistes rejettent avec horreur l'arrivée d'un musulman. Eh bien pas du tout. Ça les intéresse, et tout simplement parce que nous sommes au début de l'affaire Dreyfus, dans un contexte où l'antisémitisme est extrêmement prégnant, et donc on a des plumitifs d'extrême droite qui se demandent si finalement ces musulmans pourraient pas aider les Français à se débarrasser des Juifs. Donc là aussi, on est dans la recherche de tout ce qui pourrait créer des ponts, des passerelles entre le socialisme d'une part, le nationalisme d'autre part. Or, Grenier n'appartient à aucune de ces deux familles et ne va pas leur donner de gage. Lui veut rester dans le centre, hein, le centre-gauche, c'est-à-dire le radicalisme.
Le Soleil, 23 décembre 1896.
Certes, l'entrée d'un musulman à la Chambre est une nouveauté.
Le catholique Kéroban applaudit à l'élection du docteur Grenier.
Le turban et le burnou du docteur Philippe Grenier étonneront au milieu des jaquettes et des redingotes de nos députés. On s'y fera. Et quand il y a 100 députés dans une chambre française pour représenter les intérêts de la tribu d'Israël, je trouve assez juste qu'il y en ait un pour défendre les droits de 4 millions de sujets arabes et kabyles. Que la racaille juive exploite, rançonne et opprime indignement.
À la fin des années 70, les musulmans de Pontarlier sont autorisés à fonder une mosquée dans les anciennes casernes Marguet. elle sera naturellement baptisée Philippe Grenier, en hommage au premier musulman de la ville. On n'a jamais entendu l'appel du muezzin à Pontarlier,
par exemple. Non, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il nous autorise à l'intérieur, mais à l'extérieur, non.
Vous voulez visiter l'intérieur?
Si c'est possible, oui.
Oui, entrez.
Il faut se déchausser.
La pièce est verte et blanche, son sol recouvert de tapis, et sur les murs tout autour, des gandouras accrochés aux patères attendent leurs propriétaires qui prendront place entre les colonnes à l'heure de la prière. On y enseigne le Coran, le français et l'arabe, et l'on offre aux visiteurs de passage un verre de soda pétillant et américain.
C'était comment cet endroit avant que ça devienne la mosquée ?
C'était un magasin, c'était la coupe des cheminots dans le temps. On a refait les peintures, on a refait les piliers. Il y a des peintres qui ont fait ça.
En blanc et en vert ?
En blanc et en vert. Et c'est des piliers qui ont été faits par des fidèles. Oui. On a l'endroit là où ils font les ablutions. Vous voulez regarder?
Attends, on va allumer. Ça marche normal, ça.
Oui.
Hein? Il y a des gens qui savent.
Oui. Voilà.
Ça,
ils font
les ablutions.
Il y a des robinets, voilà. Il y en a qui font les ablutions quand ils viennent de chez eux. Ils viennent, ils les font ici sur place. On a des robinets, des lavabos. Ça c'est le sanitaire où ils font les ablutions. Voilà, on a ce qu'il faut ici. Et ça, c'est des étagères où on met les chaussures parce que il faut tout le temps purifier. Quand on rentre, il faut pas marcher avec les chaussures.
Il avait fait un voyage en Algérie en 92 ou 93.
Bernard Olivier.
1894. Et c'est quelque chose l'avait frappé, c'était la misère en quelque sorte des indigènes, la population dont la France devait améliorer si possible le sort.
La population de l'Empire.
La population de l'Empire et notamment du Maghreb.
Pour autant, il n'est pas anticolonial.
Ah non ?
Non.
Non, non.
Non, mais je dis, c'est un homme aussi de son temps. Hein. Indépendamment de cela, il s'investit beaucoup dans les questions de défense nationale. Hein. Nous sommes, bien sûr, une vingtaine d'années après la guerre de 1870-71. Elle a laissé, je dirais, des traces extrêmement profondes. Et vous avez un esprit de revanche qui est largement développé dans le cadre de la Troisième République radicale qui s'est imposée à l'époque.
Et puis, il a été marqué de manière très intime par cette guerre de 1870 contre la Prusse, puisque son père est mort des suites de cette guerre, puisqu'il servait dans l'armée napoléonienne à l'époque.
À l'époque, Philippe Grenier avait, je dirais, 6 ans.
La guerre de 1870, on en parle, mais on ne parle pas de la retraite de l'armée de l'Est. Mais il ne faut pas oublier que l'armée de l'Est, c'est à peu près 90 000 hommes qui font retraite pour aller déposer les armes en Suisse. C'est-à-dire, vous imaginez 90 000 Français poursuivi par 90 000 Prussiens, qui passent dans la grande rue de Pontarlier, en traversant tous les villages aux alentours. Vous imaginez le bruit, avec des morts, des blessés, toute une artillerie, des chevaux, etc. Ça fait quand même, on va dire, du bruit. Donc c'est quelque chose qui a marqué également le docteur Grenier. Donc il y a toujours ce sentiment d'inquiétude du député Grenier par rapport à la puissance numérique, la puissance de feu de l'Allemagne, qui pourrait éventuellement essayer de revenir, encore une fois. Et le souci du docteur Grenier dans le domaine militaire, c'est là où ses interventions ont été beaucoup plus importantes finalement, le souci c'était la défense nationale.
Pour lui, l'islam et les tribus arabes, ça doit jouer un rôle dans la défense nationale. Il faut créer une communauté d'esprit entre le colonisateur et les colonisés. Mieux, ces frontières de l'Est que menace l'Allemagne, il faut les faire défendre, y compris par des spahis, des turcos, des tribus arabes et kabyles que l'on transformerait en unités militaires. C'est ce qui sera fait d'une certaine manière pendant la Première Guerre mondiale.
C'est d'ailleurs pour financer la création d'une armée d'indigènes sur le territoire métropolitain qu'il proposera d'augmenter les taxes sur les alcools.
En effet, lorsqu'on dépose une proposition de loi qui a un coût, il faut trouver de quoi la financer, et c'est classiquement en proposant de relever la taxation des alcools que gage sa proposition de loi Philippe Grenier. Sa proposition, c'est un véritable plan stratégique de rénovation de l'armée française qui porte sur bien des points, mais en particulier sur la création d'unités indigènes en métropole. Cette proposition, elle est vraiment très étonnante, car très argumentée, très longue, très, très détaillée. Et bien sûr, elle n'arrivera jamais en discussion dans l'hémicycle. Mais ça a suffi. Ça a suffi aussi à ses adversaires pour dire aux électeurs, reprenez-vous. Cet homme que vous avez élu député, c'est un ennemi de l'alcool. Et Pontarlier, d'une part une ville de garnison, et d'autre part une des grandes villes de l'absinthe. L'absinthe de Pontarlier est renommée dans toute la France et au-delà. S'attaquer à l'alcool, c'est s'attaquer à Pontarlier, à sa prospérité. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce député qui s'en prend à ses propres électeurs, d'un certain point de vue ?
Maintenant, on va rejoindre la rue principale qui est la rue de la République. Donc, c'est la rue la plus commerçante, la rue des défilés. Donc, Pontarlier, c'est vraiment la petite ville à la montagne. À proximité les pistes de ski en hiver, comme vous pouvez le voir. Mais c'est surtout que l'hiver, il faut aussi s'habiller. Hein, parce qu'on a toujours des températures qui sont fraîches et froides.
Dans les rues enneigées de Pontarlier, avec Sophie Paillard.
Au réveil, l'horizon est noir et sans soleil.
Alors l'absinthe fait vraiment partie de la vie des Pontifaniens. En 1805, la première distillerie française d'absinthe, elle va être à Pontarlier. Donc en 1900, imaginez qu'à Pontarlier, on compte 25 distilleries. Sur une population de 8000 personnes, 3000 personnes travaillent dans les distilleries. On peut compter dans la rue 110 bistrots au bois debout, comme ils les appelaient à l'époque. Et il y a un peu plus de 10 millions de litres d'absinthe qui sont fabriqués par an. Donc Pontarlier va vraiment devenir la capitale mondiale de l'absinthe. On verra sur la gauche donc la rue du docteur Grenier, donc qui a été rebaptisée en 1944. Il habitait donc juste sur la gauche où aujourd'hui il y a une boutique de création de bijoux.
Bon, je crois qu'ils ont fini, on va pouvoir y aller.
Philippe Grenier est l'élu de Pontarlier. Berceau de la fée verte, l'absinthe, cette boisson réputée pour rendre fou. La triste vie de Gervaise, dépeinte dans l'Assommoir d'Émile Zola, a révolté la droite et la gauche 20 ans plus tôt, et les ligues anti-alcooliques se déchaînent contre les ravages de l'alcool dans les milieux ouvriers. L'absinthe sera interdite 18 ans plus tard. Mais pour l'heure, un après-midi de février 2012, rue des Lavaux, on démonte les alambis pendant que les touristes goûtent les productions locales. Rencontre avec François Guy, dernier descendant des distilleries Guy, fondées par son arrière-grand-père, Armand, en 1890.
Lorsque j'évoque Philippe Grenier, pour vous, à quoi ça fait écho ?
C'est un petit peu l'assassinat de l'absinthe par un docteur local. Mon arrière-grand-père ne devait pas être copain avec lui, puis les 23 distillateurs de Pontarlier ne devaient pas bien l'apprécier non plus.
Parce que votre arrière-grand-père, Armand, a ouvert la première distillerie, sa première distillerie, en 1890, donc 6 ans avant l'élection de Philippe Grenier en tant que député.
Après s'être installé ici, il a tout de suite senti les prémices des attaques qui allaient amener la mort de l'absinthe, et tout particulièrement celle menée par le docteur Grenier.
Et aujourd'hui, on en est où justement de l'histoire de l'absinthe ?
Les recherches que j'ai faites dès lors que je suis arrivé à la distillerie me servaient en fait à moi à essayer de savoir si cette fameuse molécule de thuyone, qui est donc la partie constituante de l'absinthe, avait vraiment des effets hallucinatoires, était vraiment dangereuse pour la santé. Ces recherches ont abouti à quelque chose de certain, c'est que ce qui était dangereux dans l'absinthe, c'était la consommation de grands volumes avec des degrés assez élevés. En fait, si vous voulez, la dose d'alcool pur ingérée à l'époque quand on consommait une absinthe, c'est comme si vous preniez à l'heure actuelle 6 apéritifs dans le même verre.
Ici, l'on sert Émile Pernaud de Pontarlier.
Voilà, on va commencer par ces dames.
L'absinthe cuisinier oxygéné, c'est ma santé. Absinthe Robette, absinthe Berger. Demandez toujours une déchanette. Terminus, absinthe bienfaisant, Pontarlier.
Je bois à tes succès, ma chère, et à ceux de l'absinthe Terminus, la seule bienfaisante.
Alors, comme vous le voyez sur cette photo,
François Guy,
au-dessus de la colline qui est derrière la distillerie, vous voyez toutes ces petites maisons qui sont pareilles. C'était le camp militaire des Pareuses. On venait au camp militaire des Pareuses pour apprendre à tirer de toute la France. Donc, mon arrière-grand-père pense aussi qu'en s'installant le plus près possible des militaires, ce sont les militaires qui vont expédier, en repartant de Pontarlier, son absinthe et ainsi la faire connaître.
Il ne faut pas oublier que
Bernard Olivier.
Pontarlier était une ville, pas de garnison, mais une ville militaire, puisqu'il y avait entre, en gros, le mois d'avril et le mois de septembre, ou l'automne, à peu près 10 000 soldats qui venaient faire des exercices de tir à Pontarlier, tir au canon, entre autres. 10 000 soldats, ça boit, ça fait éventuellement un certain nombre de dégâts. Quand ils sont pris de boisson, ça peut provoquer des bagarres, etc., etc. Donc le commandant de la place s'en émeut fortement et demande au maire de Pontarlier de bien vouloir faire construire une salle des fêtes qui serait quand même finalement plus intéressante comme lieu de fréquentation par les soldats plutôt que les débits de boisson. Donc c'est le commandant de la place qui demande au maire de faire une salle des fêtes pour organiser des balles. Salle des fêtes qui existe toujours, qui est maintenant une salle du théâtre, enfin c'est le théâtre municipal, et voilà.
Donc finalement, il s'agit de contrôler les loisirs de ces militaires.
En gros, tout à fait, de les organiser, de les contrôler, de favoriser donc les rencontres vraisemblablement entre jeunes soldats, jeunes sous-officiers, officiers, et puis jeunes pontissaliennes. Donc, voilà, donc c'est presque pas une entreprise patrimoniale, mais enfin finalement, on peut voir un peu comme ça, oui. Quand on a travaillé ici, pendant ce musée, sur l'absinthe, on a trouvé des publicités absolument incroyables, inimaginables maintenant, comme par exemple...
L'absinthe cuisonnier oxygéné, c'est ma santé.
Alors, voilà, une là qui nous relie à la aux colonies, pas à la colonie, mais aux colonies, avec un zouave, l'absinthe Munier, avec ce zouave...
Absinthe Munier en vente partout.
Alors, effectivement, là, on est lié à l'histoire, puisque c'est bien, effectivement, les troupes coloniales qui ont lancé, popularisé, développé la consommation de l'absinthe, au début, simplement, pour des buts, on va dire, de santé, d'hygiène, puisqu'il s'agissait pour eux de désinfecter l'eau qu'ils allaient trouver tout au long de leur périple dans le Maghreb, enfin en Algérie. Et donc, il fallait désinfecter l'eau. On leur donnait donc une petite fiole avec de l'absinthe, ils désinfectaient l'eau. Et donc, c'est eux qui ont popularisé la consommation de l'absinthe dans toutes les couches sociales.
Donc là, on voit le zouave avec son bonnet rouge, son paquetage sur le dos. Donc, on voit bien que cette bouteille d'absinthe fait partie intégrante de ce paquetage militaire de base des armées coloniales françaises au XIXe siècle.
Regardez, il a une médaille. Il a une médaille. Donc, il est vraiment le personnage
victorieux.
Celui qui a conquis l'Algérie, donc c'est important.
En buvant de l'absinthe.
En buvant de l'absinthe. Du moins, l'absinthe a permis que les troupes françaises ne soient pas décimées par de méchantes dysenteries.
suisse, France et fils d'outre-mer, sous les plis du drapeau qui flotte dans les airs, la vaillance, les mêmes combats, ils ne partiront pas, car les doigts sont là, de Tunis ou de Rabat, de la Brousse ou de Sousse, de la Corse ou de Paris. Ce sont les gars du pays.
Et quand ils sont rentrés en France, il se trouve qu'ils sont rentrés victorieux. Donc les civils se sont mis à faire comme les soldats, ils se sont mis à consommer de l'absinthe. Donc il y a effectivement un rapport de cause à effet entre cette conquête de l'Algérie et le développement de la consommation de l'absinthe, l'augmentation du nombre de distilleries, etc.
Il y a eu beaucoup d'incendies à Pontarlier.
Sophie Paillard.
Des incendies très importants, au XVIIe ou XVIIIe siècle. Toutes les constructions étaient en bois, les maisons étaient accolées, les toitures étaient également en bois. Et surtout, comme il fait froid avec le climat qu'on a, on chauffait beaucoup et il y avait souvent des feux de cheminée. Et l'incendie le plus important, il a eu lieu en 1900 à la distillerie Pernod. On dit qu'un ouvrier a ouvert les cuves d'absinthe pour éviter qu'elles explosent. L'absinthe s'est déversée dans le Doubs. Et on dit qu'à cette époque, les soldats buvaient l'absinthe à même le casque dans le Doubs. Hein.
L'intransigeant, 13 janvier 1897.
Les honneurs de la journée appartiennent incontestablement au député mahométan qui a fait Florès à la Chambre. Une séance consacrée à l'élection du bureau n'attire jamais grand monde, mais hier, on se disputait les places. Et le guignol parlementaire était assailli de curieux venus pour assister au salam alek rituel du disciple de Mahomet. En arrivant, claudiquant, le disciple de Mahomet commence par donner un coup de langue aux marches du perron de l'entrée des députés côté droit. Puis, en passant sous chaque porte, il envoie un baiser au dieu des croyants. Aussitôt entré dans la salle des séances, M. Grenier se met à genoux et il lèche un peu le tapis de l'hémicycle. À 2h40, il embrasse les marches de la tribune. Vers 4h, il se tourne vers l'est, représenté ici par la droite de la chambre, et fait ses dévotions du côté de la Mecque.
Ce qui est frappant quand on lit les interventions parlementaires de Philippe Grenier, c'est de voir à quel point c'est aussi un idéaliste et quelqu'un qui a très vite perdu de vue sa circonscription et ses électeurs. On lui avait pourtant dit localement, hein, attention, on ne vous a pas élu pour défendre les musulmans. En réalité, c'est ce qu'il va faire. Il va parler de l'Algérie, il va parler des unités coloniales que l'on peut installer en métropole. Et c'est seulement à la toute fin de son mandat, à propos de pisciculture, à propos d'assèchement de marais, qu'il va déposer quelques amendements en s'excusant de déposer des amendements électoraux. On est à quelques semaines du renouvellement et ça ne suffira évidemment pas. Et évidemment, Grenier est battu, écrasé au renouvellement de 1898. Il va, parce qu'il est tenace, se présenter de nouveau aux législatives de 1902, où là, il fait un score inférieur à 10%, et là, il se retire véritablement de la vie politique nationale.
Ça, c'est des photos de traîneaux pour déblayer la neige, vous voyez.
Monsieur Cuneau.
Quand il y avait beaucoup de neige à Pontarlier. Au fond, vous voyez la porte Saint-Pierre. Et là, voilà le docteur Grenier au milieu de la rue, en plein de neige, sur son cheval blanc.
Et sur celle-là, on voit ce qu'on appelle des triangles.
Les triangles, c'est les triangles pour chasser la neige. Alors, c'était des chevaux et puis des bœufs qui les traînaient. Et c'est de là qu'il y avait un triangle sur la place et que j'étais tombé, puis que le docteur Grenier m'avait soigné. Il m'avait fait des points à la tête, là. Il m'avait fait 5 points. J'avais, attendez voir, 11 ans à peu près. 11 ans. Je suis 30, alors ça fait en 41. Pendant la guerre, en 41.
Il retrouve ses fonctions de médecin et il soigne. À ce moment-là, je dirais que son histoire politique s'efface et disparaît. Et il n'a plus qu'une fonction de médecin qui est déjà relativement importante.
Une fonction sociale importante.
Fonction sociale importante, oui. Alors, il est, alors on l'appelait le médecin des pauvres. Mais bon, je crois qu'il a simplement fait son boulot de médecin, correctement sans doute, en laissant une sorte de légende derrière lui, l'homme au petit cheval blanc, enfin, etc. Donc,
Bernard Olivier.
Eh bien, entre les deux guerres, en se déplaçant à cheval, etc., le personnage change dans la mesure où il abandonne la gante droite et le burdou, et on le voit toujours habillé, il est représenté sur les photos dans un costume noir. Il porte également une petite calotte, qui n'est pas sans rappeler un peu la kippa des Juifs. Il se laisse également pousser la barbe.
Monsieur, je vous remercie de votre bonne lettre. L'idée que vous y exprimez, celle qu'il n'existe pas de religion différente, mais qu'il n'y a qu'une seule religion, est une idée qui se propage de plus en plus, et surtout parmi les mahométans. La même tendance d'unification se produit dans toutes les grandes religions. Contribuer à cette destruction des religions particulières et à la fondation de la religion universelle est une des plus belles vocations de l'homme de notre temps. Vous travaillez à cette œuvre. Je suis de cœur avec vous. Léon Tolstoï.
Yasemki, Russie, 6 avril 1909.
En 1903, il s'est passé un changement notable dans la vie de Philippe Grenier. Il s'est marié. Il a épousé Marie-Antoinette Courtais, de 18 ans plus vieille que lui, et qu'il a repris en main. L'habit arabe, c'était fini, ou seulement pour les grandes occasions. Il aura le droit de le porter, par exemple, en 1925, lorsqu'il viendra à Paris pour l'inauguration de la mosquée de Paris. Mais sinon, on remise l'habit musulman, et il va porter en particulier une espèce de toque un peu curieuse, qui fait que son frère lui dira « Tu es né catholique, tu es devenu musulman, et tu finiras juif ». D'un point de vue spirituel, Grenier va essayer de trouver quelque chose qui soit commun au grand monothéisme. Alors c'est pas tellement étonnant parce que tout le 19e siècle est à la recherche de quelque chose comme cela, qui ne soit pas l'athéisme et qui ne soit pas non plus la foi en une religion orthodoxe. C'est la théosophie, c'est toutes sortes de recherches spiritualistes, et Grenier est dans ce bain-là. D'ailleurs, même le Grenier musulman était-il vraiment musulman? Il a bricolé un islam, et à partir de cet islam bricolé, sincère, mais bricolé, il est parti vers quelque chose de plus vaste, qui était un grand monothéisme, un grand syncrétisme, mais qui ne relevait plus que de sa vision personnelle de l'homme et de l'univers.
Souvenir du peintre Robert Fernier.
Il voulut bien m'accorder quelques séances de pause pour l'exécution d'un petit dessin qui figure maintenant dans la salle des portraits de l'hôtel de ville de Pontarlier, où toutes les célébrités de l'arrondissement sont réunies en effigie. J'aurais aimé pour mon travail qu'il revêtît le costume des Arabes. Il s'y refusa, mais il me dit « Venez demain matin avec votre appareil photographique, je vous réserve une surprise. » Le lendemain, quand j'arrivais avec mon matériel, le docteur Grenier était prêt. Tout de blanc vêtu, il avait jeté son burnou sur une gandoura et s'était coiffé à l'algérienne. Il courut à la porte, tourna la clé dans la serrure et se tournant vers moi, « La photo que vous allez prendre sera la dernière qu'on fera de moi dans ce costume. N'en parlez pas à Madame Grenier, elle ne serait pas contente. Et promettez-moi de ne publier ce portrait que vous allez faire qu'après ma mort. »
L'ironie peut-être au moment de la mort de Philippe Grenier, c'est qu'il meurt quelques mois avant que la région de Pontarlier soit libérée. Mmh. Et cette région est libérée en partie par des troupes de tirailleurs. Mmh. Il est mort quelques mois finalement avant de pouvoir voir la réalisation d'une de ses grandes idées de député.
Oui, c'est le cas. Alors, je dirais un des clins d'œil à l'histoire. Moi, lui, il aurait certainement dit que c'était une intervention de Dieu Tout-Puissant, mais je pense que c'est un des clins d'œil à l'histoire qui fait que ce soit effectivement un régiment de tirailleurs algériens qui a libéré Pontarlier.
C'est un personnage qui est effectivement cohérent dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, dans sa logique, qui va jusqu'au suicide politique, qui peut être terrible. On n'imaginerait pas maintenant un homme politique se suicider politiquement de la sorte. Il est allé au bout de sa logique. Il est allé très très loin. Il a vécu pauvre d'ailleurs. Il avait des biens, c'est vrai, de la part de sa famille. Mais sa femme, à un moment donné, s'inquiète. Il est tellement dispendieux pour les pauvres. Il fait l'aumône pour les pauvres. Dans la grande rue, il interpelle des militaires et il fait l'aumône hein, aux officiers. C'est pour mes pauvres qu'il dit. Quand les Allemands occupent Pontarlier en 1940, il va spontanément à la mairie pour dire que si les Allemands réclament des otages, il est le premier à être à accepter cette situation. En disant, voilà, je suis prêt à me donner, entre guillemets, à l'occupant. Là aussi, c'est quelque chose d'assez assez fabuleux, cette démarche, cette cohérence à travers toute son existence. Il est d'une pureté qu'on n'imagine pas. C'est un personnage qui est attachant, il est d'une humanité. Il a marqué Pontarlier.
Merci à Daniel Longchamp, Bernard Olivier, Joël Guiraud, Monsieur Cuneau, Messieurs Ben Yahia et Slimani, Sophie Paillard et François Guy. Merci également à Stéphanie et Laurent Perrin du Café Pontissalien, Sylvain Ducret et à Florence et Jean Gaconnet. Lecture, Cécile Baquès, Martin Amic et Bernard Bouillon. Prise de son, Frédéric Quéroux. Mixage, Jean-Richard Dufour. La Fée Verte et le Burnou, Anaïs Quien, Véronique Samouilov.
A été diffusée dans la Fabrique de l'Histoire sur France Culture le 20 mars 2012.